Bonjour à toutes et à tous, artistes et spectateurs, je crois qu'on dit aussi spectateurs, d'avoir répondu à l'invitation lancée par ces 20e instants vidéo de participer à ce débat intitulé « Contre les armes de distraction massive, osons les caresses d'innovation intime ». Dans quelques instants, Marc Mercier nous indiquera quelles sont les caresses attendues de ce moment collectif de débat. Sans doute caresse-t-il l'idée qu'il n'y a pas d'un côté les producteurs de biens culturels alignés sur les critères du marché et de l'autre des consommateurs qui suivraient mécaniquement les prescriptions de la société du spectacle et de leur relais médiatique. Tiens, d'ailleurs, à propos de relais médiatiques, je vous signale que Radio Grenouille, que je représente ce soir, se fera l'écho de cette discussion dont vous pourrez retrouver de larges extraits dans une émission spéciale qui sera diffusée sur les 3-8 le 25 novembre à 10h. En attendant, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 19h. Je remercie beaucoup Mélanie qui est à côté de moi et qui va assurer la traduction pour certains de nos amis qui ne parlent pas français. Et ils sont, je crois, nombreux, venant de tous les pays du monde, à avoir rejoint cette programmation très riche cette année des 20e instants vidéo. Pour présenter le sujet de cette discussion et ouvrir les débats, je vais tout de suite passer la parole à Marc Mercier.
Bien, merci Xavier, bonjour, je suis très heureux donc, que vous soyez avec nous pour inaugurer donc, ce que nous avons appelé un congrès des spectateurs, des artistes vidéo et des poètes non alignés sur les critères du marché. Donc peut-être deux mots pour expliquer pourquoi on a choisi d'intituler ainsi cette rencontre. Donc en fait, cette idée de congrès nous est venue suite au voyage que j'ai fait avec Naïk Msili au mois de mars dernier en Palestine, où nous avons rencontré des artistes et on se demandait l'un et l'autre à chaque fois qu'est-ce qui fait que ces artistes s'acharnent à réfléchir sur des contenus, à réfléchir sur des formes, à s'acharner, à créer, malgré un contexte social, économique, politique, militaire, qui pourrait laisser supposer que c'est impossible de créer dans de telles conditions. Alors, on s'est dit, bien évidemment, visiblement, ce n'est pas les critères du marché qui déterminent leur recherche, mais c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est peut-être une nécessité intérieure, une nécessité sociale, politique, je ne sais pas. Et on s'est dit, ça serait bien un petit peu de se rencontrer et essayer de trouver les mots pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les baleines. Il se trouve que j'ai lu un texte d'un scientifique qui spécialisé dans les baleines, et qui expliquait que chaque année, les baleines se retrouvent dans un endroit de l'océan, et quand elles se quittent, elles ont changé de champ. Et ce scientifique a appelé ça un congrès. Alors moi, je me suis dit, moi, je veux qu'on fasse un congrès de baleines. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye, comme ça, librement, de raconter un petit peu quelle est cette nécessité qui fait que chacun d'entre vous, dans vos pays respectifs, vous acharnez à créer des œuvres, ou bien vous acharnez à créer les conditions pour qu'il puisse y avoir des productions artistiques en dehors du marché. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je sais pas, Vera Tamari, est-ce que ça te dirait de prendre ce premier risque de parole?
Je me présente, je m'appelle Vera Tamari. Peut-être je parlerai en anglais ou je parle le français, mais parfois c'est plus facile pour moi de parler en anglais. Moi je suis palestinienne Je suis plasticienne, professeure d'art islamique, architecture islamique à l'université du BC. Je suis la directrice d'un nouveau projet qu'on a commencé à l'université. C'est un site virtuel pour l'art contemporain palestinien qui était né à cause d'une nécessité de blocage, de circulation, de ne pas être au courant de ce qui se passe hors de la Palestine, entre la Palestine. Nous voulions faire entendre notre voix aux gens ailleurs et aux Palestiniens même dans le pays. Alors ce site est nouveau, il y a 2 ans qu'on a commencé ça, c'est plein d'informations. Ah, je donnerai la référence peut-être oui. Pour du website. C'est en anglais HTTP, two dots, two backslashes, virtual gallery, un seul mot, dot birzet, dot edu. Ça a commencé premièrement l'activité de produire dès les années 70. Il y avait un besoin de faire connaître la cause palestinienne contre l'occupation, contre ce qui se passe, pour être libéré de l'occupation. Et c'était un art très militant. Et ça a évolué graduellement, l'expression. Il y a un besoin très, très vif pour créer, parce qu'on est encerclé. On n'a pas de façon de savoir ce qui se passe dehors. Très peu, très peu. Il y a des gens qui peuvent voyager, mais c'est la minorité des gens, des artistes. Il y a une cause qu'on peut parler de cette cause. Il y a la question de l'espace perdu, de l'identité, de la mémoire, la politique interne et ce qui se passe dehors. Alors il y avait un besoin. Maintenant il y a une vie très vive culturellement. Il y a des gens qui peuvent entendre des histoires, des choses. Il y a beaucoup d'histoires.
Vera, vous venez de nous apprendre que votre travail consistait à ce que les gens dans votre pays, la Palestine, ne se sentent pas enfermés, et notamment enfermés vis-à-vis du monde. Mais est-ce que votre travail aussi contribue à réunir les communautés qui sont présentes dans votre pays, du moins à établir des passerelles de dialogue entre elles?
Mais certainement, chaque travail exige un dialogue d'une partie ou d'une autre. Et ça avance comme ça. C'est self-perpetual, comme on dit en anglais, self-perpetuating.
On peut peut-être discuter peut-être un peu avec toi, Tomika, Tomika Bachik. Donc, Tomika, peut-être, je vais vous présenter un petit peu ce que je sais de lui en deux mots. C'est il est poète et il vit à Zagreb. Donc, il est poète et croate. Il traduit donc aussi des poètes étrangers, des poètes espagnols, des poètes français aussi, puisqu'il a traduit en croate Blaise Cendrars. Voilà, j'ai eu de la chance de faire sa connaissance, de découvrir la richesse de son travail. Et c'est aussi quelqu'un qui se bat, donc évidemment, pour défendre aussi sa propre écriture, sa propre production de poèmes, mais qui se bat aussi beaucoup pour défendre les poètes croates qui sont autour de lui et essayer de faire en sorte que ces poètes puissent rencontrer des poètes du monde entier, notamment avec en s'occupant d'une revue consacrée à la poésie que je vais peut-être te laisser présenter.
Thank you, Mark. I am here to represent the cause of poetry.
Donc je suis là pour défendre, pour présenter et défendre la cause de la poésie.
As one recently died, a great Croatian poet said, "If you are a poet born as a Croat, you cannot expect much of life." But
donc, comme un poète récemment disparu a dit, si vous êtes poète et croate, on peut pas attendre beaucoup de choses de la vie.
We had seen that poetry is like somehow going down from the lives of people. That in this era of consumerism and speed, poetry almost was extinguished from libraries.
Et on a vu que récemment, avec l'ère du marché, que la poésie disparaît de la vie des gens et même des bibliothèques.
I'm here also because I studied art academy and I started as a graphic artist and I made lithographies and so I even was awarded in and so. But during the war in Croatia, I saw that I cannot express myself more in graphic arts, and then I started to write poetry, and then I became a poet. So,
alors, au début, donc je vais vous présenter une édition du magazine demain, vendredi. J'ai commencé en tant que designer graphique, et puis durant la guerre en Croatie, je ne pouvais plus exercer de cette manière-là, et donc je me suis tournée vers la poésie. Et du coup, je suis devenue poète.
And I will also do it on Friday, but I will invite as an editor of World Poetry in magazine Poetry Croatia, that is very known on the Balkans and in Eastern Europe also. All people who can help me to make link with similar magazines or with contemporary poets from all the world, because most part we have very good translators, and most part of our magazine is devoted to translation. So
donc une grande partie de notre magazine est aussi sur la traduction pour que chacun puisse être représenté, et c'est ce que je vais vous montrer demain aussi.
Oui, je voudrais poser une question à Tomika, puis peut-être ça fera le lien ensuite, on pourra étendre cette question à d'autres intervenants. On a vu qu'il s'agissait ici ce soir de réunir des artistes et des spectateurs qui se disaient non alignés sur les critères du marché. Non alignés, voilà un terme qui n'est pas neutre, qui a une histoire, qui correspondait tout au long du XXe siècle à une volonté de ne pas adhérer à l'un ou l'autre des deux grands blocs qui se partageaient la dominance géopolitique de la planète. Et je voulais lui demander comment est-ce que ce terme de non-aligné résonnait encore pour lui.
I understood, for example, I understood non-alignment of this festival, like the artist is a non-aligned within the market criteria. That's the only possible position for artists.
Donc pour moi, la seule position possible pour un artiste est d'être non-aligné. Et je l'ai compris que c'était aussi un élément très important de ce festival.
As to non-alignment, if you possibly think about the times of the Cold War and then when Yugoslavia was part of non-aligned countries.
Donc la Yougoslavie faisait partie de nombreux pays qui étaient non alignés. Donc la Yougoslavie n'existe plus, mais nous allons tous vers une entrée dans l'Union européenne. Et maintenant, nous devons savoir d'où vient l'argent, par exemple, pour réaliser des projets. Nous sommes publiés par un organisme qui s'appelle Pen Center et qui aide aussi des personnes en prison, et ça fonctionne très bien pour nous d'être publiés de cette manière-là, avec des gens qui défendent des idées semblables aux nôtres. J'aimerais dire que si les artistes et les poètes perdent leur lien avec les personnes qui sont dans le besoin et étaient simplement des stars de la télévision, ils perdraient la fondation même de ce que de leur travail et de ce que ce qui les encourage à produire. C'est dans la nature.
Peut-être pour rebondir sur cette idée que vient d'évoquer Tomika.
You present you, Sharon.
My name is Sharon. I come from Israel, and I work with my partner Cheb, and we present here a few films in a festival.
Alors, je m'appelle Sharon. Je vous présente Cheb, mon partenaire aussi. Et nous présentons quelques films dans le festival. Je viens d'Israël.
I want to continue maybe what Tomika is talking about, and maybe to continue with this question about the market, money, and art and artists, because I think it's becoming more and more a crucial questions.
J'aimerais continuer de parler sur la question de l'argent, qui est crucial pour les artistes.
Because it's a time that it's extremely also confusing for art.
C'est un moment de confusion dans l'art. Mm-hmm.
In one hand, you have artists that sell their work while being still alive for millions of euros or dollars.
Bon, il y a certains artistes qui vendent très bien de leur vivant pour des millions d'euros.
Mm-hmm. And then you have actually what's supposed to be alternative. Or the question of, is there an alternative art?
Et sinon, il y a aussi la question, est-ce qu'il existe des arts alternatifs?
When we still all the time look at, like our eyes always look at the Biennale or the Documenta, or is this what we have to aim for?
Est-ce que nous devons viser simplement des événements hautement culturels et médiatiques comme le Documenta ou les Biennales?
Or the question if you can put, if you can really build an alternative that will have also a center of its own and different kind of setting and different kind of politic inside.
Ou est-ce qu'on peut travailler d'une autre manière avec un autre centre, avec un autre type de politique à l'intérieur?
So I continue with this, maybe asking also other people how they view, because I still see that all the time it's always reflection of what's going on in the art market, and then always align yourself or non-align yourself to it. Is voilà. There another way?
Voilà, donc on voit et on constate bien où est le marché, quels sont les critères. Et est-ce que, la question, je la repose, est-ce que c'est possible de travailler en dehors de ça?
Alors moi je m'appelle Astrid et je viens du sud de la France, du Gard. Voilà. Oui, tu dis comment on peut faire pour être en dehors finalement des critères du marché. Ben, peut-être que de toute façon, si on essaye d'être dans les critères du marché, de toute façon, on est sur le terrain de l'ennemi. Et sur le terrain de l'ennemi, on se bat avec des armes qu'on ne connaît pas, parce que ce sont les armes de l'ennemi. Alors que sur notre terrain, à nous, pour les gens qui sont de notre lignée, pour les gens qui sont de notre art de vivre, c'est tellement plus facile. Alors c'est sûr que ça doit faire une sorte de niveau de vie assez modeste. Mais la simplicité nuit pas à la création. Et là, par contre, on retrouve vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, la nécessité intérieure, ou être poursuivi par nos rêves et finir par vivre nos rêves. Et là, on est dans la création. Et là, on est aussi dans le fait de créer aussi pour des gens qui pourraient être nos amis. Et là, on n'en a rien à foutre, effectivement, des critères du marché, même si on a un niveau de vie qui est modeste. Donc là, on a la possibilité de montrer ce que c'est que l'art d'habiter quand on n'a pas besoin de la soumission. Et pour nous, la soumission, elle est inutile. Et on a un art de vivre qui est important et dont il faut garder trace. Et c'est dans cette trace qu'on a aussi un rôle qu'on va qualifier de, je sais pas quoi, social, ou parce qu'on rend à la fois hommage et on garde trace de cet art d'habiter qu'on ne nous prendra pas parce qu'on est plus nombreux et puis parce qu'on est vivant.
Astrid vient à l'instant de parler, et très justement d'ailleurs, d'un rôle social des artistes. Quelques secondes avant, Sharon parlait de la nécessité de constituer une alternative. Peut-être juste, je voudrais mettre un peu en débat et en question ce terme d'alternative. Est-ce qu'il ne vous semble pas aussi parfois qu'il peut constituer un piège ? Il n'est pas question, on l'a bien compris, et les débats avancent et le montrent très clairement, il n'est pas question de rentrer dans l'économie mainstream, mais est-ce que constituer une alternative ou un marché alternatif n'est pas en soi un risque d'être réducteur ? Astrid ?
Réducteur en termes de capacité de création, en termes de visibilité, en termes de quoi réducteur ?
Ça pourrait être un marché minoritaire à côté d'un marché majoritaire.
Ben, on est plus nombreux, on est majoritaire en réalité. Donc j'ai plutôt l'impression de travailler et de donner le meilleur de moi-même pour beaucoup plus de gens que si je travaillais pour les critères du marché. En plus, je suis étanche aux critères du marché, je fais même pas exprès, je veux dire, j'y arrive pas, quoi. C'est ce que disait Tomika tout à l'heure. Si on est vraiment dans un processus de création sincère et authentique, ben, les critères du marché, je percute pas, moi. Ça rentre pas, quoi. Et puis, on est tellement nombreux, en réalité, pour qui ça rentre pas. Et on est en accord avec ça. Spectateurs, artistes, le mélange des deux. Et c'est comme si on était phagocytés par quelque chose qui essayait de nous faire croire qu'il était plus nombreux. Mais c'est nous les plus nombreux.
Nous sommes les plus nombreux. Peut-être quelqu'un veut répondre ou rebondir Taïsir, là-dessus.
Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à cette question, l'artiste, l'argent, la rémunération, les droits d'auteur, peut-être. C'est que je sens que dans le milieu de l'art ou entre les artistes, quand il s'agit d'argent, il y a une sorte de malaise. Toujours, on pense l'artiste comme quelqu'un, comme un prophète ou quelqu'un complètement désintéressé. Donc, il faut qu'il souffre, il faut qu'il crée, il faut qu'il soit sincère. C'est très beau ce que vous dites, mais les artistes, c'est des gens qui ont besoin de vivre aussi et qui présentent un service aux autres. Enfin, de quelle manière, après, on peut le définir. Mais ces gens-là ne vivent pas de l'air. Ils ont aussi besoin de vivre, ce qui est aussi parfois un peu problématique, parce que les artistes sont souvent invités ou conviés à participer à des expositions ou à des projets et tout ça. Mais on oublie, et ça arrive parfois que payent parfois de leur poche, de leur production ou leur voyage. Ou dans le meilleur des cas, on leur paye le voyage, le séjour, plein de choses. Mais pour créer, pour trouver le temps et le matériel pour produire leurs pièces, et ils ont beaucoup de mal. À la fois, on est partagé avec le besoin et la nécessité d'être visible et d'être reconnu, ou que notre travail soit communiqué. Et à la fois dans le besoin de vivre aussi. Donc, il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une charte qui règle les relations entre l'artiste et l'institution. Parfois, il y a des institutions qui se donnent la peine de payer un artiste ou rémunérer un artiste, d'autres, pas du tout. Et comme si exposer un artiste ou lui donner une certaine visibilité, comme si cela suffit et que l'artiste doit se plier et remercier qu'on lui a donné la possibilité de montrer son travail. Alors que c'est lui est le noyau de tout ce mouvement autour de l'art, que ce soit des galeries, que ce soit des centres d'art, que ce soit des musées et tout ça.
Je voudrais juste rebondir parce que je crois que tu as tout à fait raison. Mais il faut pas. Je crois qu'il y a deux choses à bien distinguer. Il y a un combat à mener pour que les artistes, comme n'importe quel travailleur de la planète, puissent avoir effectivement de quoi vivre. Et je dis bien vivre et pas survivre. Mais cette revendication-là ne veut pas dire que, parallèlement, l'artiste va se soumettre à des critères du marché qui sont des critères extérieurs à lui.
C'est justement ça dont je voulais peut-être dire que donc je pense qu'il est nécessaire de que l'artiste puisse créer librement sans être persécuté ou stressé par ou se soumettre finalement céder et se mettre aux critères de marché.
Donc Rokhshad Nordeh qui est artiste et iranienne.
Et femme.
Et femme en plus.
Oui, voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose ou séparer deux points différents par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que oui, vivre modestement, c'est bien. Pouvoir continuer son travail, c'est bien. Son travail artistique. Mais il faut encore pouvoir vivre modestement. Je pense que vivre en tant qu'artiste issu des pays qui ont eu la guerre, qui ont la guerre, la situation n'est absolument pas pareille que quand on n'a pas la guerre. Bien que les guerres existent d'une autre manière, hein, par exemple en France, il y a d'autres combats à mener. Mais en ce qui concerne l'artiste, par exemple, iranien d'origine, que je sois en vivant en France, par exemple, ou en Iran, je vois les problèmes les mêmes, c'est qu'on n'a absolument pas une sécurité de lendemain. Nous avons toujours une inquiétude pour les choses qui peuvent arriver, les catastrophes qui peuvent arriver. Et donc, étant donné que la situation, la survie, moi j'appelle ça, vivre déjà n'est pas évidente. Pouvoir vivre, manger avec même le minimum n'est pas évidente. Je pense que la seule chose qui reste, c'est quand même se tenir à sa création. La création est le seul issue, même si on n'a pas du tout un toit demain, etc. Parce que c'est ça qui va nous donner la pêche quand même. Mais c'est là où je suis d'accord qu'il y a un minimum de soutien, éventuellement, pourquoi pas, des organisations, l'Instant Vidéo, là, qui nous a proposé, qui nous a donné la parole, c'est par exemple une structure qui est soutenue par les institutions, mais à la fois il prend sa liberté, son champ de liberté quand même. Et il impose certains regards. Je vois bien comment ça fonctionne. Et ça apporte énormément pour nous et les artistes en Iran. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un travail collectif, comme Sharon a dit, pourrait avoir lieu. C'est-à-dire un dialogue déjà international entre les artistes issus du monde entier. Et le problème, de marché de l'art va se résoudre petit à petit, tout doucement. Le marché existe lorsqu'il n'y a que le pouvoir de montrer et dans la main de certaines minorités qui ont l'argent. Et du moment où on peut montrer tous ensemble et mener des tables rondes comme celle-ci, petit à petit, je pense que le marché de l'art, ce monstre qui est là-haut, va petit à petit disparaître par soi-même.
Good evening, and thank you for L'Instant Video first for arranging this for us.
So, merci beaucoup aux Instant Video de nous organiser ce débat.
I'm Jumana Emil Abboud. I'm a Palestinian artist and I'm based in Jerusalem.
Donc, je suis palestinienne et je suis passée à Jérusalem.
And I'm participating in the L'Instant Video, showing video work.
Donc, je participe en tant que vidéaste.
Which I feel very pleased to say that it's the first time screening. I'm screening this video.
Et c'est la première fois que je vais montrer ce vidéo en particulier.
So I have several points to make. One is about this loyalty issue, and another is about this the issue of the market, what Taysir was saying, and what several artists have mentioned so far. I don't think that there's any shame. I don't feel there's any shame. In the market.
Je ne pense pas qu'il y a de honte à avoir en ce qui concerne le marché.
You know, if we really ask ourselves that question of loyalty. I believe that it's, you know, artists have different things they're loyal to. Whether we're loyal to politics, or we're loyal to geography, or we're loyal to culture, or to religion, or to whatever, you know, there is a loyalty that we are that we feel. The market also is could be, let's say, another part of the fruit on that tree.
Alors, sur la question de la loyauté, les artistes peuvent être loyaux à toute une gamme de choses comme une politique particulière ou un phénomène de société. Et peut-être que le marché est simplement un des fruits sur l'arbre dans le monde de l'art.
We shouldn't have to feel discouraged because it's there.
And on ne devrait pas être découragé simplement parce que c'est là.
In fact, completely the opposite.
En fait, l'opposé.
It's one of those things that should even challenge us because of its existence.
Parce que ça existe, ça devrait être un défi.
Because, you know, what Mark was saying before, the song of whales, that they meet and they exchange song. The songs of the whales, I mean, the whales are still going to sing, even if someone's going to hear them or not. If, I mean, I can speak for myself. I'm not doing art because of the market only. I'm doing art because that's what I do. That's my passion.
Donc si on pense aux baleines, les baleines, elles vont chanter et échanger.
First and foremost.
Même s'il y a d'autres baleines ou pas. Donc si je parle de moi-même, je vais créer de l'art s'il y a le marché ou non.
Like any other career, like any other passion, I'll find another way to put a roof over my head.
Voilà, comme n'importe quoi, n'importe quel autre travail ou autre passion, je vais trouver un moyen pour mettre un toit sur ma tête.
So the first is that loyalty factor and the second is the audience factor.
Voilà,
and
donc d'abord il y a la loyauté et ensuite il y a le public.
For example, there are different institutions and each institution has its particular audience.
Voilà, chaque donc ensuite il y a plein d'institutions et chaque institution a son public.
And perhaps, I don't know, perhaps we can say that each institution also has its market criteria, meaning the audience. Who are the audience that are here tonight? Who are the audience that will be here tomorrow night? Who are the audience that will be at another institution for another event?
Voilà, donc chaque institution, du coup, se retrouve avec son critère de marché qui est son public. Et à chaque fois qu'ils reçoivent un public particulier, ils vont s'adapter à ce public. Donc pour eux, c'est leur critère de marché.
And also for like another example, as Vera was saying before, about the start of or the majority of what Palestinian artists were working on the political themes, they were doing that then because who was the market? It really was the Palestinian people. They were the audience. There was a need for them to feel encouraged.
Voilà, j'aimerais dire revenir sur ce que disait Vera. À un moment donné, l'art palestinien était très important et visait le peuple palestinien. Donc c'était eux qui avaient besoin d'être encouragés et donc la production des artistes allait de pair avec cette envie-là.
Now the Palestinian citizen today still needs to be encouraged, but you will find artists not necessarily working on that same particular material or medium or theme.
Voilà, alors les citoyens palestiniens ont toujours être besoin d'encourager, mais les artistes ne vont pas nécessairement toujours travailler sur les mêmes thèmes d'avant.
So that encouragement, that comfort that the audience is seeking now is being transformed somehow. That the material has changed. It's become different. It's through video work or through the younger generation of artists who are finding another language.
La forme du travail a changé, le matériel a changé, bien que ça porte toujours le même confort et l'encouragement dont a besoin le citoyen palestinien, mais c'est le langage qui a changé.
And of course it's not enough to have just the artist and that community. You need that person who's in the middle, the mediator. And a lot of times, at least I feel, it's not about the market, it's about that institution. So the institution is the relevant body.
Voilà, l'institution, pour moi, est le corps pertinent. Ce n'est pas une histoire d'artistes et de marché. Il nous faut les personnes au milieu qui sont les médiateurs. Donc, c'est l'institution.
Also, because myself, I work in an art foundation in Jerusalem. So, I see very much from the other perspective of being the body of the institution, how indeed, you know, where is the criteria of the market and where is the artist and where is the audience?
Voilà, donc comme je travaille dans une institution culturelle à Jérusalem, je vois aussi de l'autre côté et l'importance de savoir où est l'artiste, où est le public et comment se positionne l'institution.
Je suis Pilar, je viens de l'Argentine et pour nous, la guerre n'est pas la guerre, sino que la guerre a resté la crise de l'année 2000-2001. Et depuis de ces questions qui nous a transformés comme société et beaucoup de gens de la même génération de moi, nous avons créé les conditions de l'équipe indépendante et fort de l'institution, autour de l'institution, créer la possibilité de faire un réseau. Avec notre travail indépendant et les autres travaux de les institutions et les travaux de les artistes pour créer une médiation et pour former un public différent pour les opéras contemporains que notre artistes sont venus à continuellement créer. Mais ces conditions de travail fuera del circuito, no? Au circuit, c'est une opportunité intéressante pour nous parce que nous avons créé conditions neuves, conditions que tous les artistes besoin de tenir, non? Parce que ce sont les conditions que nous prouvons, nous expérimentons et nous mettons à travailler. Et nous avons vu qu'en 5 années transcourues, le public a changé. La réception des œuvres d'art contemporaines se meilleure. Et nous avons créé un circuit de marché.
À propos de l'Argentine, dont vous venez, je crois, et de Buenos Aires en particulier, il y a dans cette ville un lieu qui s'appelle IMPA, la Fábrica, et qui était un lieu d'artistes qui vit depuis quelques années déjà, qui est vraiment une initiative très originale, à la fois une entreprise qui continue à fonctionner comme une entreprise, et en même temps un lieu d'art ouvert sur la population. Je voudrais juste que vous nous donniez quelques nouvelles du fonctionnement de ce lieu aujourd'hui.
Ce sont beaucoup des personnes qui travaillent de manière particulière à l'Argentine. Je crois que l'Argentine média c'est beaucoup créatif et qui a un base éducatif très important. L'Argentine c'est un pays bon éduqué, bon alimenté et pour ça je crois que les conditions qu'ont créées dans Sud-Amérique et sont beaucoup bonnes. C'est un exemple, non?
Non, je dis juste deux mots quand même par rapport à ta question à l'IMPA, parce que donc l'IMPA, c'est vrai.
Vous les connaissez bien.
Ben oui, c'est une fabrique qui regroupait 180 ouvriers et ouvrières. Et cette usine faisait donc du recyclage d'aluminium et de plastique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1999, les travailleurs ont récupéré l'usine, ont chassé les patrons qui travaillaient très très mal, qui avaient une très très mauvaise gestion, et se sont mis en autogestion, avec égalité des salaires, toutes les décisions prises en Assemblée générale. Donc, ça, c'était en 1998. Et en 1999, les ouvriers ont décidé, en Assemblée générale, d'ouvrir l'usine à des artistes. Et 50 artistes sont venus cohabiter avec les ouvriers. Moi, quand j'ai visité cette usine, c'est vrai que c'était absolument extraordinaire de voir cette cohabitation. Le problème, c'est que là, les critères du marché ont frappé très très fort. C'est qu'il y a eu les anciens propriétaires de l'usine, associés avec les militaires, avec la police, ont un beau jour réinvesti l'usine, détruit tous les ateliers des artistes. Donc, je veux dire, quand on est en train de poser la question des critères du marché, je veux dire, il faut quand même avoir ça en tête, c'est que les critères du marché, c'est pas qu'une histoire d'institutions qui peuvent être plus ou moins gentilles. Les critères du marché, c'est aussi derrière des fusils qui sont prêts à tirer sur des gens qui essayent d'inventer une autre façon de vivre et une autre façon de créer.
Va parler Manuela Gallegos, elle est ministre du gouvernement d'Équateur et elle est ministre des mouvements sociaux en ce moment.
Buenas noches. Aunque no es mi tema, porque no es lo que no he venido por un evento que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, quería compartir que en el Ecuador estamos viviendo un momento muy especial político. Y qué tiene que ver con lo que ustedes están haciendo.
Même si je ne suis pas venue pour participer directement à cette rencontre, et ça me touche énormément parce que c'est une des préoccupations du gouvernement actuel de l'Équateur, la politique culturelle.
Lo que estamos haciendo nosotros en el Ecuador respecto a la cultura es el haber creado el Ministerio de Cultura. Que justamente responde a lo que he logrado entender aquí en el poco francés que hablo y en el inglés que entiendo otro poco. Es justamente el incluir a todas las personas en el Ecuador, el dar todos los espacios para que se pueda incluir el arte popular, lo que hace la gente más allá de los élites artísticas que pueden concentrarse solamente en un tipo de producción.
Une des préoccupations centrales du gouvernement d'Équateur en ce moment, c'était la reconstruction, remettre en place le ministère de la Culture qui avant n'existait pas. Et dans la politique culturelle actuelle, c'est surtout de donner la place, donner la parole, donner l'espace à l'art populaire. À la participation populaire dans l'art et la culture et surtout de tâcher de compenser la conception de l'élitisme dans l'art.
L'Équateur tiene una variedad étnica y cultural inmensa y por lo tanto hay producción de todo tipo desde diferentes espacios con nuestra población indígena que es muy grande. También con la población afroecuatoriana y otras manifestaciones más mestizas o de la mezcla desde la colonia. Y también hay, por supuesto, la cultura urbana, urbana marginal, etcétera, que producen diferentes cosas. Y
todo esto ha estado excluido en relieve le fait que
ahora nosotros lo que hacemos
en Ecuador y a una
posibilidad con aportes específicos culturalité
una etnie différente etnie de afro africain indigène mestiz avec les espagnols énormément de secteurs des populations qui ont été exclus complètement de l'espace culturel. Ils n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer. Et donc, eux, en ce moment, ils font un investissement particulier, surtout sur le cinéma, mais en général, pour donner la possibilité à ces secteurs d'exposer, de créer, et de créer dans une conception pas de marché, mais aussi de donner les moyens concrets pour pouvoir s'exprimer.
Juste une question quand même, si Madame la Ministre le veut bien. Vous avez évoqué que vous souhaitiez apporter la culture à tous dans votre pays, y compris à une partie de la population qui a de grandes difficultés à accéder à cette culture. Sous quelle forme souhaitez-vous le faire? C'est-à-dire quel type de réalisation concrète souhaitez-vous mettre en place?
Nosotros en el Ecuador vivimos algo que le nombramos la Revolución Ciudadana.
Elle a dit que l'Équateur a initié il y a quelques années et qui a conclu avec le triomphe de Rafael Correa, le nouveau président, et à la révolution citoyenne. Voilà. C'est ça qu'ils ont, c'est compliqué, c'est beaucoup plus complexe que les thèmes artistiques, créatifs, culturels, mais à partir d'un pays qui était dans une pauvreté extrême, une différenciation sociale extrême, ils tâchent de donner les moyens à travers des promoteurs, des animateurs, des formateurs culturels et sociaux, la possibilité d'arriver, que les gouvernements, la politique de l'État puissent arriver à toucher, se sensibiliser, être proche de ce qui se passe à la base, dans les quartiers, dans la campagne, dans les communautés indigènes, dans les villes. Aller en bas. Voilà. Et c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est une intention de faire ça. Moi, j'ajoute personnellement que le gouvernement de Lula au Brésil, il fait plus ou moins, il joue dans le même sens.
Qu'on aille maintenant vers la conclusion de cette rencontre et que Marc Mercier, organisateur de ces 20e instants vidéo, nous donne quelques mots justement en forme de conclusion.
Oui, ce sera plutôt une forme d'inconclusion parce que cette rencontre n'est qu'une étape parmi d'autres qui vont suivre puisque l'idée du congrès c'était aussi de dire que ce n'est pas seulement avec la parole, avec la discussion que l'on pense. Il n'y a pas que les philosophes qui pensent, mais qu'une œuvre d'art, qu'un poème, qu'un film, qu'une installation vidéo, qu'une musique, c'est aussi de la pensée. Ce que je me suis aperçu dans les débats que nous avons eus cet après-midi, c'est que nous sommes en danger à chaque fois que nous avons une pensée binaire. Par exemple, quand on oppose la politique, l'engagement social et l'art. Nous, on s'est longtemps débattu et on n'a pas fini dans notre réflexion dans les instants vidéo jusqu'à dire à un moment donné que cette opposition est futile. En tout cas, les artistes que nous aimons ont dépassé cette question. Non pas en la simplifiant, parce que à chaque fois que l'on simplifie des contradictions, on sait que... nous, on ne sait pas faire, mais les fascistes savent le faire. Nous, au contraire, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les choses plus complexes. Et ce que j'ai entendu, c'est que nous sommes tous en train de rendre les choses de plus en plus complexes. Alors on a inventé ce néologisme, qu'il faudra peut-être un jour aussi dépasser, de poélitique, pour dire que, pour nous, il n'y a aucune différence entre un acte artistique, si c'est un acte artistique qui vient du fond de soi-même et qui essaye de dire quelque chose du monde et quelque chose de sa relation avec le monde, l'opposition entre l'acte artistique et l'acte révolutionnaire n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que le poète et le révolutionnaire, ce sont des individus ou des groupes d'individus qui essayent de transformer un langage, que ce soit le langage de la parole, le langage de notre posture amoureuse, amicale, politique. En tout cas, je vous remercie au nom de toute l'équipe des Instants Vidéo d'avoir bien voulu participer à ces rencontres. Mélanie, j'espère que tu vas traduire, que je te remercie évidemment beaucoup, beaucoup. Et puis, je remercie beaucoup Xavier Thomas et Radio Grenouille d'avoir été les complices de ce débat. Merci beaucoup.